Bonjour. Bonsoir et bienvenue à Sur la Transversale avec moi-même Kevin Laramie en ce mercredi 27 mars 2019. Bienvenue à l'émission cette semaine. Nous allons parler de l'équipe canadienne masculine qui a réussi à se qualifier pour la Coupe d'or. Oui, la Coupe d'or, mieux connue sous le nom de la Gold Cup ce dernier week-end, avec leur gain ce dimanche à Vancouver contre la Guyane française, 4-1 pour l'équipe du Canada, avec Samuel Piette, qu'on va parler de sa bourde. Samuel Piette qui a mené au seul but, malheureusement, de l'équipe canadienne, et on pourra tirer la pipe de Samuel un petit peu, mais c'était un bon match de sa part en tout et partout, malgré ce petit laps de mauvaise réaction du gardien aussi, on va se l'avouer là. Mais on va en parler un petit peu plus tard. On va regarder les matchs qui ont lieu dans la MLS le dernier week-end. Et nous allons regarder les matchs qui s'en viennent ce week-end aussi. Et nous allons regarder un petit peu l'historique de l'équipe canadienne en Gold Cup, en la Coupe d'or, pour se préparer un petit peu cet été. L'équipe canadienne qui a été la seule équipe, outre le Mexique et les États-Unis, à gagner ce tournoi qui est le championnat de la CONCACAF, qui existe depuis 1963, mais connu sous le nom de la Gold Cup et du format présent, la Gold Cup en 91 et depuis 98, il y a ce format tous les deux ans. Donc nous allons regarder l'historique un petit peu plus tard dans l'émission, mais commençons par parler de cette victoire de l'équipe canadienne 4-1, menée par la vague de jeunesse qu'il existe présentement en équipe canadienne, avec les joueurs tels les Jonathan David, les Luca Cavallini et Junior Hollett. Junior Hollett un petit peu plus âgé, qui est un de ces vétérans de l'équipe canadienne, mais qui a performé très bien ce week-end. Mais je dois avouer, l'étincelle de l'attaque ce dimanche était Jonathan David. Et qui est Jonathan David? Qui est Luca Cavallini? Et qui est Junior Hollett? On va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Je vais vous donner un résumé de leur carrière un petit peu, et résumé de qui sont ces jeunes Canadiens qui se sont développés soit à l'extérieur, soit sur le tard, soit en Uruguay, en Europe, tout dépendant de ces joueurs, et qui avaient le choix de représenter d'autres pays. Junior Hollett aurait pu présenter la Jamaïque, mais a choisi le Canada. Et c'est une tendance qu'on peut retrouver maintenant avec les joueurs tels les Baloutes Tabla, qui a choisi le Canada au-dessus de la Côte d'Ivoire, et d'autres joueurs comme ça. Alphonso Davies, avant de jouer pour le Canada, il aurait pu, avec un gros aurait, là, si vous voyez mes petits guillemets ici, là, représenter le Liberia, mais évidemment a choisi son pays d'adoption, qui est le Canada, qui lui a donné beaucoup de chance et qui maintenant redonne à son pays d'adoption énormément. Mais revenons à cette victoire du Canada 4-1 contre la Guyane française. Évidemment, c'était une victoire préméditée, on s'en doutait. C'est une victoire qui était nécessaire aussi. Le quatrième et dernier match de l'équipe canadienne en qualification pour la Ligue des Nations de la CONCACAF, qui débute officiellement l'année prochaine, plus tard cette année, et à l'automne. Le Canada avait la chance de se qualifier pour le groupe A, qui contient les équipes telles le Honduras, le Mexique, les États-Unis, le Costa Rica, le Panama. Donc les grandes pointures du soccer de la zone de la CONCACAF, qui comprend l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes. Donc des grosses pointures, celles qui nous ont fait mal dans le passé, telles le Honduras, évidemment le Mexique et les États-Unis font partie de ce groupe, ce qui va donner au Canada quelques matchs par année de plus. Des matchs qui ont, oui, c'est des matchs de compétition, c'est pas nécessairement des matchs amicaux, mais il y a une certaine... C'est pas non plus un match de Gold Cup, c'est pas un tournoi, c'est une ligue, mais c'est plus important quand même que juste un match amicaux. Et ça, il y a des points de la FIFA, des points qui servent au classement de la FIFA qui sont disponibles. Et déjà, si on regarde le classement du Canada, je ne l'ai pas devant moi, il va changer d'ici quelques prochaines semaines, mais il s'est amélioré beaucoup depuis la dernière année, et c'est grandement dû au point de la FIFA que le Canada récolte lorsqu'il gagne ou lorsqu'il affronte des équipes dans les matchs qui veulent dire quelque chose, et les matchs de la Ligue des Nations comptent pour les classements de la FIFA, tels les matchs de la Gold Cup aussi, et ils ont un plus grand coefficient de valeur, une plus grande valeur, c'est pour les points de ces matchs de Ligue des Nations et des matchs de la qualification de la Coupe du Monde, évidemment, on a le plus. Ensuite, c'est la Gold Cup et évidemment la Ligue des Nations, les matchs amicaux beaucoup plus bas, ce qui explique cette résurrection du Canada au classement international et ce qui est de bon augure pour le futur. Et cette bonne augure pour le futur pour l'équipe canadienne est due à la présence de cette vague de jeunesse, ce noyau de joyaux. On va l'appeler comme ça, hashtag noyau de joyaux pour l'équipe canadienne qui est évidemment chapeautée par Alphonso Davies. Malheureusement, Alphonso Davies était blessé ou sous ordre de Bayern Munich a dit « t'es blessé, ok? Tu joues pas? Vas-y, fais le voyage, fais ton fondi, rencontre le monde, fais-toi du plaisir, mais tu joues pas sur le turf artificiel du BC Place. » Parce qu'on a besoin de toi pour la fin de saison, on a beaucoup de matchs, et c'est des matchs importants pour la Ligue Bundesliga, la première ligue allemande, des matchs importants pour rattraper le Dortmund qui était en avant, et c'est maintenant une bataille, c'est maintenant plus corsé. Et le Bayern Munich, je n'ai pas les classements devant moi, là, mais le Bayern Munich qui est maintenant prétendant au titre cette année, malgré un retard en début de saison, auront besoin des services d'Alphonso Davies pour bien terminer le match. Un super sub avec une énergie et une rapidité extrême pour le Bayern Munich, c'est le rôle qu'il aura d'ici la fin de la saison. Et c'est un peu pour ça qu'ils ont dit « Ok, t'es blessé, tu ne joues pas pour le Canada ». Vas-y quand même, fais-toi du plaisir. S'il était vraiment blessé, il n'aurait pas fait le faire le voyage. Là. On s'entend. S'il y avait un doute sur une blessure musculaire ou ligamentaire, il n'aurait pas fait faire le voyage de l'Allemagne, de Munich jusqu'à Vancouver. Là. C'est la moitié de la planète Terre. Je pense pas que Bayern Munich aurait accepté de dire à Alphonso Davies de faire ce voyage s'il y avait une grosse blessure, évidemment. Donc on s'entend, c'est de manière préventive et une grande précaution du Bayern Munich et surtout une précaution pour pas qu'Alphonso Davies se fasse mal sur la surface artificielle du BC Place. Mais ce noyau de joyaux chapeauté par Alphonso Davies avec les Balutabla, les Jonathan David, les Scott Arfield et Junior Hunlett deviennent les vétérans et cette présence rassurante sur le terrain. Samuel Piet avec Mark Anthony Kay dans le milieu de terrain défensif qui l'apporte une certaine solidité et une vision, une habitude de jouer sous pression aussi lorsqu'on regarde le rôle de Samuel Piet soit avec l'Impact, soit avec l'équipe nationale, très similaire. Et il est habitué de jouer avec un homme sur lui. C'est des situations qui se retrouvent souvent à CONCACAF, un rôle très important pour Samuel Piet. Et c'est de bon augure pour le futur. On va parler de son erreur dans quelques instants, mais juste pour terminer sur le noyau, Luca Cavallini est selon moi le meilleur attaquant de l'équipe canadienne présentement. Un des bons attaquants au Mexique présentement, il joue pour l'équipe de Puebla. Et regardons un petit peu le parcours de Luca Cavallini, qui est un petit peu différent de certains. Il aurait pu, avec les années qu'il est en Uruguay, il aurait pu représenter l'Uruguay, mais a choisi le Canada tôt dans sa carrière. On parle avec les U20, U23, 2011-2012 et avec l'équipe première dès 2012 pour Luca Cavallini, qui a grandi et qui a terminé sa formation de joueur professionnel de soccer en Uruguay, né à Toronto, en Ontario, en 1992. Il a présentement 26 ans, 5 pieds 11, un attaquant, présentement joue pour Puebla dans la première ligue mexicaine, a terminé sa carrière jeunesse en 2010 jusqu'en 2012 avec l'équipe nationale, donc de 8 à 10 ans avec l'équipe nationale, pour la bonne prononciation, nationale en Uruguay, et a fait ses débuts avec l'équipe professionnelle de cette organisation nationale en Première Ligue uruguayenne en 2012 et aussi jusqu'en 2015 pour 4 apparitions. Ensuite, en prêt à Juventud, une autre équipe de cette même ligue, Phoenix aussi 2 années suivantes, 2015-2016 à Phoenix, ensuite 2017-2018 à Peñarol, et ensuite, vraiment, le grand changement de sa carrière et ce qui lui a donné la confiance qu'on le voit, je vais vous parler de sa confiance et de son attitude et son langage corporel que j'ai remarqué lors de ce match contre la Guyane française. Mais lors de son prêt en Puebla de 2017-2018, 25 matchs, 13 buts. Lorsqu'on match 13 buts en 25 matchs en Première Ligue mexicaine, on a une confiance, on trouve la confiance de son entraîneur et c'est ce qui est arrivé présentement en 2018. 27 matchs en 2018 avec 9 buts. Donc ça, c'est statistique en date de 2018 pour Luca Cavallini. Mais on remarque une confiance. Il a grandi, il est fort, il est puissant maintenant. Il peut représenter un danger pour les équipes de la CONCACAF. Si on remarque cette performance contre la Guyane française, du but Luca Cavallini, pas les plus beaux buts que vous allez voir durant ce week-end, je vous l'accorde, mais lorsqu'on regarde le pointage final, la manière dont on marque le but n'est pas importante. De cette façon-ci, la manière que le but a été terminé, les deux façons de terminer les buts, n'était pas spectaculaire, mais la puissance, la force physique démontrée pour se démarquer lors des 1 contre 1 très serré de Luca Cavallini dans la boîte des 6 mètres, il a été capable de se démarquer aux derniers instants pour trouver la façon de trouver la touche au ballon et terminer ses buts, soit avec la tête, soit avec les pieds. Ben, c'est une force physique qui a grandi et c'est une confiance qui développe présentement au Mexique. Il est, selon moi, le meilleur attaquant canadien. On parlait de Kyle Lahren dans le passé, et même Anthony Jackson-Hamel il y a quelques années, mais Luca Cavallini les a dépassés et de plusieurs longueurs. On parle du meilleur attaquant canadien présentement jouant au Mexique. Luca Cavallini, un des joueurs qui joue dans l'une des plus grandes ligues. Oui, on a Balou qui joue en Liga espagnole Ligue 2. Malheureusement, présentement, prêté par Albacete. Et quand je dis joue, il ne joue pas beaucoup. Il jouait un petit peu plus pour le Barcelona B, qui est malheureusement 3e division cette année. Donc, Balou se retrouve un petit peu dans l'impasse d'essayer de trouver du temps de jeu présentement. On va voir si ça va déboucher avec Albacete ou ailleurs. Mais il y a des joueurs aussi comme Alfonso Davies en Première Ligue allemande. Mais la Ligue mexicaine, l'endroit où Luca Cavallini joue, c'est du bon foot. Là. On parle d'un haut calibre. On parle de Puebla, une équipe de mi-tableau, mais une équipe qui grandit et une équipe qui trouve le moyen de supporter des joueurs comme un Luca Cavallini, des joueurs étrangers. Il y a des quotas aussi certainement à respecter en Ligue mexicaine. Et Luca Cavallini trouve son petit bout de chemin et est capable de bien performer. Donc, ce joueur qui est né à Toronto, ensuite, depuis l'âge de 8 ans, est en Uruguay, et maintenant, à l'âge de 80... Bon, on est en 92, on est en 2019, sa fête, c'est au mois de décembre, donc c'est beaucoup plus loin. Présentement, il a 27 ans. Donc, 27 ans, Luca Cavallini, meilleur attaquant pour l'équipe canadienne. Ensuite, l'autre joueur que je vous parlais, qui est un des piliers et récemment devenu très important pour l'équipe canadienne, c'est Jonathan David. Jonathan David qui est franco, quand même un franco-ontarien, mais né à Brooklyn, à New York, dans l'État de New York aux États-Unis, aurait pu devenir Amérique. Il aurait pu choisir les États-Unis s'il avait voulu comme passeport, mais il a grandi dans la région de Ottawa. Jonathan David qui est né dans l'année 2000, au mois de janvier 2000, qui est présentement âgé de 19 ans. Donc, grandi en son soccer amateur dans la région de Ottawa. En 2010, avec les Gloucester Dragons SC, dans la région d'Ottawa, je suis en banlieue d'Ottawa. Ensuite, les Ottawa Gloucester, avec le Ottawa International, le programme élite dans la région d'Ottawa en 2016-2018. Et ensuite, a commencé son exode vers Gent en Première Ligue belge. Et a commencé avec un grand fracas, avec des belles performances en Ligue Europa, qui lui ont donné la confiance dans l'entraîneur. Et depuis, on parle d'un joueur qui, en 2018, sur 23 apparitions avec les premières, a marqué 8 buts, a marqué déjà 4 buts en 4 matchs seulement avec l'équipe canadienne. Ces 4 matchs ont été les 4 victoires du Canada en Ligue des Nations. 4 buts pour Jonathan David, le meilleur marqueur de l'équipe canadienne durant ce temps. Et un des piliers maintenant, un des autres joueurs attaquants, donc avec Luca Cavallini et Jonathan David qui seront supportés par les travails de Alfonso Davies, de Double Tabla. Le seul vrai problème, c'est comment trouver le moyen de mettre tous ces joueurs talentueux sur le terrain en même temps lorsque certains de ces joueurs occupent une position similaire. Donc, ce sera le travail de John Herdman dans le futur. Et un des vétérans importants de cette équipe est Junior Hollett, qui, quand même seulement âgé de 29 ans, aura 29 ans cette année, né en 1990 dans la région de Brampton, en Ontario, et a joué pour Cardiff dans la Ligue première et dans la Ligue Championship, deuxième Ligue anglaise, pour Queen's Park Rangers aussi en deuxième Ligue anglaise pendant 4 ans, 2012 à 2016, a joué avec FC Saint-Pauli et Saint-Pauli en Allemagne et Paderborn aussi en Allemagne. Il a joué pour les Blackburn Rovers. C'est là qu'il a terminé sa formation amateur et a fait ses débuts professionnels en 2007 jusqu'en 2012 avec Blackburn Rovers, qui, dans ce temps-là, c'était la fin de la présence de Blackburn en Premier League. Et en 2012 ou 2013, je me rappelle bien, dans ces eaux-là, ils ont commencé leur descente vers la Ligue 1, où ce qui se trouve présentement. Ligue 1 ou championnat? Je pense que un des deux. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de Blackburn, mais dernière nouvelle, ils étaient en Ligue 1, qui est la troisième division anglaise. Mais Junior Hollett, qui a terminé sa formation avec l'Académie des Blackburn Rovers, a fait ses débuts avec les Blackburn Rovers. Il a connu une telle carrière internationale quand même très bien et a joué quand même 102 matchs avec Cardiff, dernière équipe qu'il a occupée avant de jouer présentement avec Cardiff, présentement encore, donc en Première Ligue anglaise, évidemment. Donc 102 matchs, 14 buts pour Junior Hollett, représentant du Canada, jouant en Première Ligue anglaise, qui est un des vétérans qui sera là pour chapeauter le Canada durant cette période de transition de John Herdman, quasiment une année complète maintenant que John Herdman a été nommé en tant qu'entraîneur-chef de l'équipe canadienne. Et on doit avouer une progression et on doit avouer un succès certain déjà pour l'équipe canadienne avec John Herdman en tant que leur entraîneur. Et c'est plaisant pour le futur, c'est plaisant lorsqu'on regarde en 2026 où le Canada devrait avoir une des places automatiques pour participer à cette Coupe du Monde, mais même 2022 ne semble pas inaccessible maintenant. Surtout si l'on compte le fait que 48 équipes vont peut-être faire partie de cette Coupe du Monde en 2022 au Qatar de novembre à décembre 2022. Si 48 équipes est là, ce sera un an. Une place et demie, si ce n'est pas deux places et demie de plus pour la région de la CONCACAF, ce qui donnerait entre 4, 5 places et demie, et peut-être que le Canada serait capable de se glisser dès 2022 en Coupe du Monde, surtout avec les performances que l'on a vues. Donc, durant ce match 4-1 qui a terminé la phase de qualification du Canada en Ligue des Nations de la CONCACAF, le Canada a terminé deuxième, malheureusement, dans la Ligue des Nations de la CONCACAF. On a passé très près de finir premier, mais malheureusement, ou heureusement, je devrais dire, il n'y a pas grande différence côté récompense, c'est en terminant premier ou deuxième. Vous êtes dans la Ligue A pour le début de cette Ligue des Nations cet automne. Vous êtes avec les équipes telles le Mexique, Haïti, Martinique, Curaçao aussi présentement, avec les États-Unis, le Panama, Costa Rica, le Honduras. Donc, toutes nos bêtes noires des dernières années, le Canada se frottera à eux. Le Canada qui a terminé ce tournoi avec 4 matchs joués, 4 victoires, 0 défaites, 18 buts pour, 1 but contre, et ce but est venu sur l'erreur de Samuel Piette lorsque Samuel a passé le ballon à le gardien Milan Borjan. Il y a eu un certain manque de communication et je dois avouer une grande partie de cette erreur est due au gardien aussi, mais c'est pas grave. Haïti a terminé premier de cette phase de qualification de la CONCACAF dû à un différentiel de plus 17, mais un plus grand nombre de buts marqués, 19-2. Ils ont concédé 2 buts. Canada seulement 1, 18-1. Les deux, un différentiel identique. Mais lorsque le différentiel est identique, le nombre de buts pour est le prochain bris d'égalité. Et Haïti a gagné ce prix d'égalité. Donc, bravo à Haïti qui a terminé premier de cette phase de qualification. Le Jamaïque, un petit peu en trouble, qui ont connu une défaite. Et le Jamaïque se retrouve dans la Ligue B de la CONCACAF, la Ligue des Nations. Et ça, c'est une grande surprise quand même pour la Jamaïque, qui a des plus grandes ambitions. Et malheureusement, je crois que leur génération dorée est passée à autre chose pour cette Jamaïque. Donc, la Ligue des Nations de la CONCACAF, Aujourd'hui, mercredi, plus tard aujourd'hui, aura lieu les tirages au sort. Même chose pour la Coupe d'Or. Donc, on va en reparler la semaine prochaine. On fera un petit résumé et nous allons savoir un petit peu plus les groupes, les dates pour les matchs de la Coupe d'Or cet été et pour la Ligue des Nations cet automne pour l'équipe canadienne. Maintenant, on va continuer de parler de la Gold Cup un petit peu. La Gold Cup, on parlait de 1991, a été le début de ce championnat qu'on appelle la Gold Cup, mais ce championnat existe depuis quand même plus longtemps. Avant, il s'appelait le championnat de la CONCACAF, tout simplement. Depuis 1963, le Canada a participé pour la première fois à ce championnat de la CONCACAF en 1977 et a terminé quatrième. Ça a eu lieu au Mexique. Dans le temps, le tournoi avait lieu à plusieurs endroits. Mais depuis 91, depuis que ça s'appelle la Gold Cup, a eu lieu à seulement trois endroits et toujours au même endroit et quelques matchs à l'étranger. On va reparler de ça dans quelques instants. Mais en 1963, 1965, 67, 69, tous les deux ans, de 63 jusqu'en 89, ce championnat voyageait au Mexique, au Honduras, au Salvador, a été au Costa Rica, Trinidad et Tobago. Donc, plusieurs endroits y ont accueilli ce championnat de la CONCACAF qui a accueilli le Canada pour la première fois en 77, qui a terminé quatrième. Le Canada, ensuite, en 81, quatre ans plus tard, a terminé quatrième encore une fois, a gagné le championnat de la CONCACAF en 1985. Ensuite, le championnat a évolué après 89 et est devenu la Coupe d'Or, le Gold Cup, si vous préférez, depuis 91. Le Canada a été éliminé en phase de groupe en 91 et a terminé sixième durant ce tournoi, qui avait lieu aux États-Unis. Il a toujours lieu aux États-Unis, à part à trois occasions. En 93, le Mexique a accueilli quelques matchs. En 2003, même chose, le Mexique a accueilli quelques matchs aussi. Et en 2015, le Canada a accueilli un match à Toronto. J'y étais présent. Et c'était très intéressant de couvrir ce premier match en sol canadien de la Coupe d'Or, en espérant que c'est une expérience qui sera répétée. On ne sait jamais, peut-être cet été, mais d'ici deux ans et d'ici la venue de la Coupe du Monde, je suis sûr que certains matchs de la Coupe d'Or seront utilisés comme événement test pour certaines villes qui veulent accueillir un match de la Coupe du Monde. Donc, espérant de voir un match de la Gold Cup ou de la Coupe d'Or à Montréal un jour, ou à Toronto encore une fois, ou à un endroit, peut-être même un endroit qui aura une équipe de la Ligue première canadienne, qu'on va finir l'émission en parlant sur ça aujourd'hui. Mais si une équipe de la Ligue canadienne qui a un stade de 10 à 15 000, un match de phase de groupe de la Gold Cup ou peut-être un match international ou amicaux pourrait être intéressant. Mais continuons en parlant de la Gold Cup. Le Canada, leur deuxième apparition en Gold Cup était en 93, a terminé 6e en phase de groupe, ont été éliminés en phase de groupe en 96 aussi. En 98, petite controverse, le Canada s'est retiré, étant pas capable de mettre tous les éléments à temps pour former une équipe compétitive, à se retirer, mais a fait leur meilleur coup à vie et jusqu'à présent est probablement le fait d'armes le plus élevé de l'histoire du Canada en Gold Cup. Et je parle évidemment de l'année 2000 où le Canada a gagné cette Gold Cup. Oui, oui, vous avez bien compris. En 2000, comme vous pouvez voir, la mode était un petit peu différente et surtout la définition est un petit peu différente aussi. Mais le Canada, en 2000, a gagné cette Gold Cup, la Coupe d'Or, avec une victoire de 2-0 contre la Colombie. Venez pas me demander pourquoi la Colombie était en finale de la CONCACAF, là. Mais il y a eu quelques échanges au cours des années avec des équipes du CONMEBOL qui sont venues jouer dans la Gold Cup. Et on a vu des équipes de la CONCACAF qui ont été jouées dans la Copa América, qui est le tournoi du CONMEBOL aussi. Donc, avec les années, il y a quelques échanges de procédés qui ont lieu entre ces deux associations avec des participations des équipes adverses dans le championnat de cette confédération tous les années. Mais comme vous pouvez voir les images sur votre écran si vous nous écoutez en vidéo et si vous nous écoutez en version balado, merci. Il y a l'option vidéo qui est disponible aussi sur notre page YouTube et, comme vous pouvez voir à l'écran, sur la page youtube.com/sportspodcastnetwork et sur notre page Facebook, facebook.com/sur la transversale. Vous pouvez trouver la version en différé, toujours en direct, cette version vidéo et version balado en direct sur Twitter, notre Twitter @surtransversal. Mais si vous m'écoutez tout de suite, vous savez tout ça. Retournons à nos moutons qui étaient le Canada en 2000. Jason DeVos, qui est présentement dans le staff technique de l'Association canadienne de soccer, qui est un peu chapeautre de l'idéologie soccer pour le futur pour l'équipe canadienne, a marqué le premier but de cette finale où le Canada a battu la Colombie 2-0. Mais le Canada a gagné cette Gold Cup en 2000. Le Canada est la seule équipe, outre le Mexique et les États-Unis, à avoir gagné la Gold Cup depuis 91. Et je m'en rappelle encore, ça m'a fait les manchettes en 2000. On parle d'un environnement soccer extrêmement différent durant ce temps. Il n'y avait pratiquement aucun joueur développé issu du Canada. C'était des joueurs qui ont dû à leur passion et leur volonté de percer dans le monde du soccer, ont trouvé des endroits pour se développer. On parle, ça faisait même pas 4 ans que la MLS existait en 2000. Les États-Unis ont accueilli la Coupe du Monde en 94, c'était le renouveau du soccer en Amérique du Nord. 96, le début de l'annonce, et en 97, le début du jeu de la MLS. Mais, en 96, mais on parle de 2000, encore les années noires du soccer, surtout au Canada. Donc, les joueurs qui ont représenté cette équipe dans ces années-là, les Craig Forrest que vous avez vu à l'écran, les joueurs qui ont commencé leur carrière comme Mauro Biello et tout ça dans ces eaux-là aussi, avant ça, mais on parle de la fin des années 90, là, en 2000. C'était les années noires, les joueurs qui ont réussi à trouver un endroit comme DeVos, qui jouait à Ipswich Town, en Ligue anglaise, dans ce temps, dans le championnat ou en Première Ligue, même, il n'y a pas de Première Ligue, là. Ben oui, 2000, il y avait de Première Ligue. Mais c'est quand même des faits d'armes importants de trouver un moyen d'avoir une équipe canadienne, de trouver un moyen de trouver des joueurs qui voulaient juste accepter de jouer pour l'équipe canadienne, puis qui se battaient pour du temps de jeu dans leur propre équipe, mais qui étaient des grandes stars pour le Canada. On parle justement de DeVos, on parle ici Carlos Caleón qui a marqué le deuxième but sur le penalty, Carlos Corazon que vous avez vu, mais Jimmy Brennan qui est l'entraîneur de York 9 FC, équipe de la Première Ligue canadienne que vous venez de voir à l'écran aussi. C'est cette génération, la génération qui est présentement en train de travailler en arrière-scène pour créer la prochaine génération du soccer canadien et cette génération dorée qui a gagné la Coupe d'or en 2000. Et je vous parle de cette Coupe d'or en 2000 parce que on remarque le début de cette génération dorée avec le Canada, avec les Jonathan David, Luca Cavallini, Alfonso Davies, Balu Tabla, Scott Arfield, Junior Hoylett. Oui, on commence à parler d'une génération dorée. Il nous faudrait peut-être juste quelques défenseurs. Donc, si vous avez un jeune de 15 ans, qui joue dans le soccer élite présentement, puis est canadien. Mettez-le donc comme défenseur. Faites-les travailler beaucoup, s'il vous plaît. C'est nous autres, là. C'est à nous autres de créer notre génération de défenseurs parce qu'on a besoin, là. On est correct dans le milieu. On a bien des attaquants. On peut se former des défenseurs, s'il vous plaît. Bon, revenons à l'équipe de la Gold Cup 2000. Le plus grand fait d'armes de l'équipe canadienne de soccer. Cette victoire en Gold Cup 2-0 contre la Colombie, le Canada champion de la CONCACAF dans les années 2000, en 2000. Continuons notre exploration de l'historique de la Coupe d'or et du Canada. Troisième en 2002, éliminé en phase de groupe en 2003, en 2005, mais une demi-finale surprise, une troisième place en 2007. On parle des Patrice Bernier et de cette génération en 2007. Quart de finale en 2009. 2011, phase de groupe éliminée. 2013, phase de groupe éliminée. 2015, même chose, phase de groupe éliminée. Mais dans cette phase de groupe, on a vu le début et l'engouement que peut avoir une équipe canadienne avec ce match qui a lieu à Toronto. Avec les jeunesses, on peut remarquer les Piette et tout qui étaient là dans le présent. Piette qui joue avec l'équipe canadienne depuis que 17 ans. C'est pas n'importe quoi, là. C'est un jeune vétéran. Piette, il a quoi, 24 ans? Là? 25 ans? 24? On parle d'un jeune vétéran. Mais retournons à ce que nous parlions de l'historique de la Coupe d'or. 2017, le Canada s'est rendu en quart de finale. Et en 2017, c'était, pour moi, terminé sixième, quart de finale, le début et l'annonce d'Alfonso Davies sur la scène internationale. Il a gagné le soulier d'or pour le plus grand nombre de buts en égalité avec 5 durant ce tournoi. Et félicitations à Alfonso Davies qui a commencé cette révolution de mentalité que nous voyons maintenant avec John Herdman depuis un an à la barre de cette équipe canadienne. Et le futur sera glorieux. Autant que glorieux peut être lorsqu'on est l'équipe Canada. On ne gagnera pas la Coupe du Monde d'ici 20 ans. Là. Mais peut-être qu'on va se qualifier. Et peut-être qu'on va marquer un but. Et peut-être même garder une victoire un jour en Coupe du Monde. Peut-être. Oui, peut-être bientôt. Peut-être 2022. Mais, j'avais besoin de prendre mon souffle, mais durant cette pause internationale, la MLS n'arrêtait pas complètement. Et si vous ne saviez pas, mais c'est les équipes elles-mêmes qui ont le choix. Ils disent à MLS s'ils préfèrent avoir la semaine de congé ou s'ils préfèrent jouer. Et souvent, si vous avez une équipe qui a plusieurs joueurs internationaux, plusieurs joueurs qui vont quitter lors de pause internationale pour retourner avec leur équipe nationale, donc, vous perdez plusieurs joueurs. Si vous jouez, ben, vous avez une chance de perdre un match. Vous avez une chance de pas récupérer si vous prenez une journée de congé. Mais c'est 12 équipes. Donc, vous avez des équipes comme Dallas, Colorado, Red Bull, Orlando. Comme vous voyez à l'écran, qui ont voulu jouer. Et voici les résultats de cette fin de semaine en MLS. FC Dallas 2, Colorado 1. Une victoire à la maison pour FC Dallas. New York Red Bulls, qui m'ont fait faire des mauvaises choses en fantasy. Oui, oui, à cause de vous, j'ai pas bien fait des beaux points. Moi, je me disais, ah, ben, Red Bulls à la maison, contre Orlando, qui est une équipe que, dans ma tête, vont finir en fin de peloton, mais pour l'instant, ils se maintiennent pas si pire. Mais avant cette victoire, je me dis, ben, l'Impact vient de jouer contre Orlando et leur. Pas donner une leçon, mais tu sais, l'Impact en a passé trois, là. Donc, je me disais, ben, New York Red Bull, une équipe qui démontre énormément de succès, surtout en début de saison, à cause de leur chimie, de leur habitude, mais ils ont eu des départs et j'avais oublié. C'est sûr que ça va leur prendre du temps de s'acclimatiser au départ de Tyler Adams. Mais c'est ça. Ils perdent à la maison, toi. Ben oui. Moi, j'avais Luis Robles, puis Bradley Rice Phillips, puis Kaku a pas joué. Puis ils n'ont rien fait. Orlando gagne 1-0. Puis mon fantasy était capote. Philadelphie 3, Columbus 0. Première victoire de la saison pour Philadelphie. L'Union avait besoin de cette victoire pour commencer une série de succès parce qu'il y a plusieurs attentes cette année pour l'Union de Philadelphie. Et ils ont dépensé plus qu'à l'habitude. Et avec leur résultat surprenant la saison dernière, en fait, saison, même si on fait capote des séries, mais Philadelphie a une certaine pression de résultats en 2019. Et ils ont marqué 3 buts, 3-0 contre Columbus à la maison. LAFC 2, Real Salt Lake 1. Encore une fois, une magnifique performance de plusieurs joueurs du LAFC. On parle d'une équipe qui est quand même profonde. Une des équipes favorites, selon moi, pour gagner la conférence de l'Ouest. Et New England 0, FC Cincinnati 2. Une victoire sur la route. Leur deuxième victoire de suite à la suite de leur premier match officiel à la maison à Cincinnati au Nippert Stadium la semaine dernière. FC Cincinnati a gagné ce week-end 2-0 contre le Revolution qui était supporté par environ 75 personnes. J'exagère, là, il y en avait peut-être un millier ou deux, puis ça a juste l'air très vide dans le Gillette Stadium, mais on parle des équipes qui se battent contre des autres équipes, des équipes qui se battent pour les points au classement, mais le Révolution, il se bat pour sortir de l'anonymat. Et présentement, ben, ça va pas bien pour New England et leur bataille contre l'anonymat. Anonymat est en train de gagner par décision unanime présentement. Regardons les matchs ce week-end en MLS. Toronto, NYCFC vendredi. Peut-être les débuts officiels du nouveau joueur désigné du Toronto FC, Pozuelo, qui a été annoncé plus tôt cette semaine. Intéressant. Pozuelo, lors de son conférence de presse, son entretien journalistique avec les médias, suite à son annonce, a mentionné « J'avais vraiment deux grandes options qui se présentaient devant moi. J'avais l'option du Toronto FC et j'avais l'option du Al Hilal en Arabie Saoudite. » Et vous dites « Al Hilal, ça me dit quelque chose. » Ben oui, c'est le club où Sébastien Giovinco a choisi d'aller. C'est là que Giovinco joue. Et Pozuelo a dit « Ben, j'ai choisi Toronto. » Et une grande raison, c'est oui, c'est le côté sportif, mais aussi c'est le côté, côté vie, côté la façon dont moi et ma femme seront traités et les opportunités de vie que nous aurons ici pendant mon séjour m'ont fait opter pour Toronto FC. Donc, première flèche lancée en direction du Al Hilal et de Giovinco par Pozuelo, et Toronto FC. Donc ce match, vendredi, 8h, 20h, heure de l'Est. Samedi, Chicago contre les New York Red Bulls, la Nouvelle-Angleterre, la Révolution contre Minnesota. Donc, Fantasy, choisissez peut-être un joueur ou deux du Minnesota. Un joueur qui pourrait bien faire comme milieu défensif, Alonso, toujours un bon choix. Sporting Kansas City contre l'Impact de Montréal. Oui, l'Impact joue contre le Sporting Kansas City ce samedi à 15h, heure de l'Est. Grosse commande pour l'Impact. Piatti est douteux, très douteux, selon le collègue Tristan Damour. Bonjour Tristan, qui fait du bon travail pour Pro Soccer USA et Soccer by Ivis. Et je dois avouer, donc Nacho très, très douteux, Dider douteux, Lovitz douteux, Piet, il va sûrement jouer, mais étant en équipe nationale, même chose pour Dider, Lovitz aussi. Donc, l'Impact, si l'Impact a la volonté et surtout la vision à long terme, on a déjà deux victoires sur la route. Deux victoires en trois matchs. Et à Houston, on aurait dû avoir un meilleur résultat. Il aurait dû avoir un carton rouge sur Houston. Et l'Impact a joué mieux qu'une défaite. Donc, l'Impact a joué trois quand même bons matchs là, en 2019. Soyons honnêtes. Avait un œil et une option sur la victoire durant ces trois matchs. Et ils l'ont fait deux fois sur trois. Donc, un bon début de saison pour l'Impact. On regarde ça à long terme. Le match contre Kansas City, on peut se permettre de faire donner un petit peu de temps de jeu aux joueurs qui n'ont pas eu encore. Premier départ peut-être pour Mathieu Schwanner en 2019. Why not? Novilo, t'es prêt? 90 minutes t'attendre. Yes. Okwankwo, toi aussi? Woohoo! Let's go. Azira, Piet au milieu. Parfait. Piatti, bon repos. Tu restes à Montréal. Fais même pas le voyage à Kansas City. Repose-toi, mon grand. On a besoin de toi, et surtout dans le long terme, pas juste ce samedi, avant le dernier jour de mars. San Jose LAFC, donc, cette semaine, dans le conseil fantasy de la semaine, le conseil fantasy de la MLS, présenté par ma ligue en fantasy, soccer de l'ESPN. LAFC est votre équipe de prédilection. Choisissez n'importe quelle équipe qui joue chaque semaine contre San Jose, et vous avez une très bonne chance de faire bonne figure dans vos ligues fantasy. LAFC est votre choix de prédilection cette semaine. Carlos Vela, capitaine s'il vous plaît, et tout de suite. Et peut-être même Marc-Anthony Kay. Et si vous choisissez le gardien de LAFC, une bonne chance de jeu blanc. LAFC va passer outre les Quakes. Quand même assez facilement. Est-ce que Cincinnati peut coller une troisième victoire de suite? Deuxième match de leur histoire à la maison contre Philadelphie. Est-ce que l'Union pourra continuer sur cette lancée victorieuse de un match? On va voir, mais FC Cincinnati se retrouve avec une meilleure défense que je pensais. Grand travail de Kendall Watson et l'ancien joueur et capitaine des Whitecaps de Vancouver. C'est de trouver un nom francophone, mais n'importe pas. C'est dessus de Montagne, les dessus de Montagne Blanche de Vancouver. Mais FC Cincinnati, peut-être surprise à la maison. Et gagner pour un troisième match de suite pour une équipe d'expansion serait un succès en soi. Déjà 9 points après une coupe de match, ça serait pas pire du tout. On va voir si Cincinnati peut garder le cap et garder le rythme ce samedi contre à Philadelphie. Ensuite, Columbus-Atlanta. Est-ce que Atlanta peut redevenir la meilleure équipe? Les champions défendants de la MLS ont eu quelques difficultés à partir cette saison, avec la même ambition, motivation et surtout avec les mêmes résultats que l'année dernière. L'équipe de Frank Debourg se retrouve maintenant avec une certaine réticence des partisans d'embarquer dans leur idéologie, dans leur projet. Ils doivent démontrer une certaine habileté à devenir plus offensifs. Je crois que Atlanta s'attend à des meilleures flamèches et présentement, on n'a pas vu ces percées offensives pour le club. Et les partisans d'Atlanta s'attendent à une bonne performance contre Columbus, mais c'est pas une proie facile, surtout sur la route. Columbus qui a, cette semaine et les semaines dernières, quand même déçu côté assistance. J'aime pas parler des assistances parce que c'est pas comme si ça changeait tant que ça les résultats. Un petit peu, oui, un support d'une équipe va apporter une énergie en fin de match. Je suis d'accord, c'est pas ce que je dis, mais qu'il y ait deux personnes ou qu'il y en ait 150, si l'attaquant a une chance de marquer, il est seul devant le but, puis l'eau, il l'a pas, Ben, l'assistance a pas. Comprenez, là? L'assistance ne gère pas la manière que le coach va gérer l'équipe. Donc, mais c'est décevant de voir une équipe qui est sauvée in extremis d'un déménagement et d'une perte de leur identité, de leur équipe, une perte de l'équipe, une des équipes fondatrices de la MLS, passer si près de la perdre et maintenant se retrouver avec 5 000, 10 000. Lorsqu'on est supposé avoir un nouveau vent de fraîcheur, de support de l'équipe, de la Ligue et des nouveaux investisseurs, mais je sais que c'est encore très tôt dans l'ère Aslam et Edwards et à Columbus, mais nous devrons voir une certaine acceptance du public d'embarquer, de mettre leur argent. Mais le nouveau stade et tout sera nécessaire, je crois, pour vraiment relancer cette équipe de manière qui est nécessaire. Parce que présentement, c'est juste, on a changé le nom du propriétaire sur les bails et on continue, mais les investissements, surtout sur le terrain, ne sont pas eu lieu encore. Et les investissements immobiliers pour l'infrastructure du nouveau stade et du nouveau centre d'entraînement qui sera autour du stade du ski présentement, mais on n'a pas commencé ça encore. Donc, on est encore une année ou deux du retour du Columbus Crew dans l'élite de la Ligue, surtout côté financier. Côté soccer, ils ont une bonne petite équipe, je voudrais dire. On va voir s'ils peuvent tenir tête aux champions défendants à la maison. Terminons les matchs ce week-end. Real Salt Lake FC Dallas. Real Salt Lake, une équipe montagne russe cette année. Une équipe que je ne sais pas à quoi m'attendre. Des semaines, je m'attends à une performance médiocre. Ils sortent une victoire sur la route. Une semaine, je m'attends à ce qu'ils soient à donner une bonne opposition, mais ils se font défoncer. Donc, Real Salt Lake à la maison contre FC Dallas. Un petit 2 sur une victoire d'un 0 d'FC Dallas. Genre de victoire qu'un entraîneur, Luchi Gonzalez, aime avec FC Dallas. Et FC Dallas pourra peut-être égaler ou battre un record cette semaine du nombre de joueurs issus de leur académie qui a joué depuis le début de leur histoire et cette saison aussi pour le FC Dallas. Colorado contre le Dynamo de Houston. Colorado à la maison. Houston, qui est une équipe donc qui me surprend cette année, présentement. Une équipe qui travaille fort et qui représente bien l'esprit latin et l'identité latine du soccer qu'il représente. Un soccer rapide, beau, qui est divertissant. Colorado, Houston. Houston sur la route. Colorado aux températures de fin de mars. Quand même pas si pire, je voudrais dire. Ça sera mieux que nos températures de fin d'hiver ou de début printanier. Avec Colorado, ça sera quand même pas si pire pour Houston et qui devrait faire bonne figure même si c'est sur la route. Donc, un autre upset si vous désirez sur la route, Houston peut-être. Vancouver-Seattle, premier bataille de la cascade, la Cascadie, la Cascadia Rivalry, Vancouver-Seattle. À Vancouver, est-ce que Vancouver et les joueurs de Mark Dos Santos pourront trouver un chemin vers la victoire pour une bonne fois? Et surtout, démontrer des signes encourageants pour leurs partisans, parce que leur patience ne sera pas très longue. Même si ils embarqueront dans le projet de Mark Dos Santos, la confiance envers les joueurs est très courte pour les partisans de Vancouver cette année. Et nous allons voir combien de temps ça va durer si victoire il n'y a pas. Contre Seattle, qui est une équipe très, très forte cette année, Jordan Morris, tout feu, tout flamme, est motivé à redevenir le joueur qu'il était avant de manquer presque l'entièreté de la saison 2018. Deux matchs qui ont lieu dimanche, le 31 mars, Orlando contre le DC United et le LA Galaxy contre le Timbers de Portland aussi ce dimanche. Donc DC sur la route peut-être, mais Orlando qui joue quand même mieux que je pensais, mais je pense pas que ça va durer. DC on the way et Galaxy qui pourrait bien faire contre Portland, qui ont de la misère, une défense poreuse en 2019 jusqu'à présent pour les Timbers de Portland. Terminer l'émission en vous rapportant les propos de mon collègue Dwayne Rollins, qui est mon co-animateur de l'émission quotidienne anglophone Soccer Today, qui rapportait plus tôt cette semaine la possibilité d'une équipe de la Ligue première canadienne, évidemment à Ottawa, mais pas avec les mêmes groupe de propriétaires, donc pas avec le OSEG, qui est connu sous le nom de le Ottawa Sports and Entertainment Group, qui est propriétaire des 67 d'Ottawa, du Rouge et Noir d'Ottawa dans la CFL, et propriétaire aussi du Ottawa Fury. Mais la relation de travail entre le Ottawa Fury de la USL et la Première Ligue canadienne est à ce point inexistante. Le pont entre les deux n'est pas juste bloqué, mais il est sauté. Il y a eu des divergences d'opinion qui ont mené à des grandes discussions, pour ne pas dire des conversations fortes, et qui ont mené à la fin des négociations et au retour du Fury dans la USL. Mais on parle d'une possibilité d'un autre groupe d'investisseurs et propriétaires qui pourrait avoir lieu dans la région d'Ottawa très bientôt. Mais ce qui a retenu mon attention aussi, c'est maintenant la possibilité de deux groupes d'investisseurs qui seraient intéressés à avoir une équipe de la Première Ligue canadienne au Québec, dans la région de Montréal. Nous savons déjà, Alex Bunbury est à la recherche depuis plusieurs mois, depuis même avant les fêtes, depuis début décembre et novembre, et à la recherche active et publique pour des investisseurs qui seraient intéressés à amener une équipe de la Ligue première canadienne à Laval, dans la région de Montréal, sûrement, ou peut-être même Montréal, mais l'idée de principe serait Laval et d'améliorer un petit peu les infrastructures tout près de la Fédération canadienne de soccer à Bois-de-Boulogne, dans la région de la Vallée-Rapide à Laval. Donc, avec quelques investissements, on rajoute plusieurs estrades, on combine peut-être un terrain ou deux pour faire un stade de 7 à 10 000 dans ces endroits-là. Il y a beaucoup d'espace vert, il y a un grand stationnement, donc ça pourrait être un bon endroit pour faire un bon petit stade de soccer pour la Ligue première canadienne qui recherche des stades entre 7 et 10 000, ce qui est l'idée d'Alex Bunbury. Mais la nouvelle ici là-dedans, c'est qu'il y aura un deuxième groupe d'investisseurs qui serait intéressé. Et ma question, c'est, bon, oui, Montréal-Laval ou Montréal est une bonne idée et est un potentiel pour une équipe de la Première Ligue canadienne. On adorerait tout ça. Mais il y aurait la bataille médiatique et la bataille de couverture et la bataille de présence dans le marché sportif montréalaise avec l'Impact pour se battre pour le marché des fans aussi, le dollar soccer, comme on pourrait dire. Il y aurait une bataille évidente tout de suite avec l'Impact de Montréal, dans la région de Montréal. Montréal ou Laval, ça c'est sûr. Quoique avec les succès du Rocket à Laval, l'Impact pourrait trouver une façon de cohabiter, ou surtout peut-être l'équipe hypothétique de Laval pourrait trouver une façon de coexister avec celle de Montréal peut-être. Mais en tout cas, mon point est que s'il y a deux groupes d'investisseurs, et au début les droits qui étaient comme... C'est un entente de principe qui avait eu lieu entre Alex Bunbury et la Ligue canadienne lors de plusieurs négociations et de relations de travail. Ils ont mentionné que si tu trouves l'investisseur, mais tu vas pouvoir ça va être à toi l'équipe franchise qui va avoir lieu à Montréal. Mais il y a une autre équipe qui est intéressée. Et s'il y a deux groupes d'investisseurs qui trouvent le moyen d'avoir les sous et de récolter, ben, est-ce qu'on devrait en choisir un envers l'autre ou est-ce qu'on devrait évaluer vraiment l'intention d'avoir une équipe professionnelle de soccer au Québec? Je dis, bon, mais si on a deux groupes d'investisseurs, est-ce qu'on a choisi un envers l'autre, puis l'autre, on l'aliène? Ou est-ce que, on dit, est-ce que tu serais intéressé d'avoir une équipe de la Première Ligue canadienne peut-être en dehors de Laval ou Montréal? Est-ce que le deuxième groupe d'investisseurs ou Alex Bunbury en tant que tel, si le premier groupe est prêt tout de suite et veut ouvrir à Laval et est capable d'avoir les droits des terrains et déjà en train de construire leur stade, bien, deuxième groupe inconnu présentement d'investisseurs, choisissez Laval, prenez votre équipe et peut-être que la première équipe d'Alex Bunbury dit ben, gars, on est prêts nous autres aussi. Pourquoi pas aller au marché de Québec, la ville de Québec, puis on aurait deux équipes, l'équipe première canadienne dans le futur au Québec. Moi, je pense que ça pourrait être une option s'il y a deux groupes qui sont intéressés présentement. Je veux pas nécessairement choisir un envers l'autre, mais je veux travailler avec les deux pour penser aux bénéfices du futur pour avoir deux équipes au Québec. Et en même temps, deux équipes au Québec, il fallait les voyages entre ces deux équipes raccourcis. Même chose pour le Wanderers à Halifax, qui se retrouve isolé dans la côte ouest canadienne présentement. La seule équipe, l'équipe la plus proche, c'est York 9. Donc, on parle d'un gros trou ici, là. On parle d'un gros trou dans la map, là, qu'il n'y a pas d'équipe dans les Canadiennes. Le Québec, puis jusqu'à Toronto. Donc, on va voir, mais cette présence de deuxième investisseur pourrait accélérer, si ne pas confirmer, la présence d'une équipe dans la région montréalaise en Première Ligue canadienne pour leur deuxième saison, pour 2020. Mais on se retrouve aujourd'hui, 27 mars 2019, un mois avant le premier match de cette Ligue canadienne qui aura lieu à Hamilton. Le Forge FC contre le York 9 aura lieu. On ne sait pas encore où, sur notre télévision, ou est-ce que ce sera sur un stream, mais MediaPro nous tiendra au courant des développements. MediaPro, qui est le partenaire officiel de Canadian Soccer Business, qui est l'équivalent de Somme. OK, MLS est une entité singulière. Les propriétaires sont tous des actionnaires de la MLS, qui est une entité singulière et qui a une entreprise conjointe, je pourrais vous dire, qui est Somme, qui est Soccer United Marketing, qui gère les droits commerciaux de la MLS, qui gère plusieurs choses, des contrats immobiliers, des choses comme ça, de la MLS. Donc ça, c'est Somme. L'équivalent canadien pour la Première Ligue canadienne, vous avez la Première Ligue canadienne, qui est l'équivalent soccer, et vous avez Canadian Soccer Business, qui est leur entité singulière, qui aura comme but d'avoir les droits commerciaux, les droits de médias, et les droits, quand je dis droits commerciaux, c'est les droits de franchise pour faire de la marchandise et faire des foulards et des choses comme ça. C'est eux autres qui ont négocié les termes de l'entente avec la compagnie Macron, qui feront les kits, les maillots que nous devrons voir très bientôt. Donc, plusieurs choses à surveiller en Première Ligue canadienne, et nous allons voir dans le futur, mais avec MediaPro, qui est la compagnie espagnole qui travaille maintenant avec Canadian Soccer Business comme leur partenaire pour les 10 prochaines années. On va voir comment ils nous livreront ce produit de la Ligue canadienne sur nos écrans et comment nous pourrons consommer ce produit en français, on espère. Et vous pouvez lire même Tristan Damour à quelques endroits sur la Première Ligue canadienne sur leur site en français. Donc, c'est très intéressant aussi. Je vous souhaite de garder un œil sur ce produit durant les prochaines années. Et qui sait, nous aurons peut-être une équipe de la Ligue canadienne au Québec dès 2020. Et ça, ben, c'est une bonne nouvelle si vous aimez le soccer, parce qu'il n'y a jamais assez de soccer. On a la Première Ligue de soccer du Québec. On a Ottawa Fury qui garde un œil dessus. Première Ligue canadienne, évidemment, les équipes canadiennes de la MLS au complet, l'équipe Canada, l'international, go Chelsea. Non, ben, ça va bien. Tu sais, quand ça va bien, ça va bien. Ben, c'est ça. Le soccer, ça n'arrête jamais. C'est toujours plaisant. Et on aime toujours vous en parler. Encore une fois, j'espère que vous avez apprécié cette émission. J'espère que vous aimez notre nouveau concept. Habituellement, toujours le mardi, pour un contre-temps de dernière minute technologique, je devais reporter à aujourd'hui, mais ce fut un bon mercredi. Et nous nous retrouverons mardi prochain pour la prochaine édition de Sur la transversale. Vous aimez l'émission? Partagez. On clique le bouton j'aime, on partage et on fait un petit 5 étoiles sur iTunes. On était 211e la semaine dernière sur iTunes. C'est quand même pas si pire, mais avec un petit peu plus de clics, un petit peu plus d'abonnements, on tombait dans le top 200. Puis ça, ben, ça me ferait sourire. Pas mal tout ça, là. Ça ne fera pas grand-chose dans ma vie. Ça ne changera rien. Ça ne me fera pas me faire payer plus cher par mon employeur, parce que c'est moi qui fais tout ça. Fait que c'est ça, mais ça me ferait sourire. Puis si vous voulez me faire sourire, un petit 5 étoiles sur iTunes. Mais comme d'habitude, jusqu'à la prochaine fois, je suis Kevin Laravée et je vous souhaite bon soccer.